aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous explorons un continent. Un continent qui s'étend sur 2 mètres carrés avec des régions sèches, des zones humides, des microbes et des terminaisons nerveuses. Il s'agit de la peau. Marquée, parée, percée, noire, blanche, elle peut gratter, brûler, se boursoufler. La peau est l'organe le plus étendu du corps humain et peut peser jusqu'à 5 kg chez un adulte. Véritable enveloppe de vie et d'identité, c'est aussi le marqueur du temps et de notre environnement. La peau nous protège au quotidien des agressions extérieures, mais elle peut aussi nous trahir. Elle révèle notre âge, nos origines, nos émotions, nos habitudes, et elle réagit constamment. Alors que sait-on de cet organe? Acné, psoriasis, eczéma, dermite, kéloïde, comment diagnostiquer les différentes maladies de peau? Comment protéger notre peau à tous les âges de la vie? Quelles réactions spécifiques à chaque type de pigmentation? Gros plan sur la peau aujourd'hui dans Priorité Santé. La peau dans tous ses états, pour en parler avec nous aujourd'hui en studio, professeur Nicolas Dupin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue à l'hôpital Cochin de Paris, professeur de dermatologie à l'université Paris-Descartes et auteur du livre « Mon ami la peau, ce qu'elle révèle et comment apprendre à la protéger à tous les âges de la vie » paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Nous retrouverons tout à l'heure en direct du Mali le professeur Ousmane Faye, chef du service de dermatologie du centre d'appui à la lutte contre la maladie et vice-doyen de la faculté de médecine de Bamako. Et en fin d'émission, la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Santé de la peau, si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, n'hésitez pas. Notre page Facebook est ouverte et nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Nicolas Dupin, vous l'expliquez dans votre livre, la peau est composée de plusieurs couches qui ont chacune des fonctions et des particularités.
Tout à fait, il y a au moins, on peut dire, 3 couches. Et chacune, d'ailleurs, a des sous-couches à l'intérieur. Je compare un peu la peau à un immeuble à 3 étages, avec, je dirais, du haut vers le bas, la couche la plus extérieure, c'est ce qu'on appelle l'épiderme, l'épithélium, qui est lui-même, qui recouvre ce qu'on appelle le derme, le tissu de soutien, c'est-à-dire qui est le tissu élastique qu'on appelle un peu l'amortisseur, parce que c'est lui qui essuie les coups de la peau. Et puis il y a une petite couche plus ou moins épaisse, en fonction des personnes, qui est une couche de graisse, en fait, qu'on appelle l'hypoderme.
Alors, par exemple, dans quel cas c'est l'épiderme qui est touché, dans quel cas c'est l'hypoderme qui est concerné?
Alors, on peut considérer que c'est souvent l'épiderme qui est touché, parce que c'est vrai que c'est l'épiderme qui est le premier rempart. Je compare souvent la peau à l'épiderme, en tout cas la partie la plus superficielle, à un mur renouvelable, en ce sens que on n'a pas l'impression que cet organe est un organe vivant, mais bien entendu, quand je touche ma peau, je sens tout de suite que j'ai touché ma peau. Quand je me pince la peau, je sens tout de suite que je me pince la peau. Et quand je me pique la peau ou quand je me brûle, je sens effectivement que ça vit, que c'est un organe qui est vivant. Donc c'est forcément quand même par l'extérieur que les agressions se font. C'est le plus souvent quand même ces maladies, que ce soit par exemple le psoriasis, que ce soit l'eczéma ou que ce soit des infections, ça commence par l'extérieur. Et puis, bien entendu, avec le temps, la peau peut s'amincir, et on voit bien que les effets du temps, les effets du soleil sur la peau, ça va provoquer ce qu'on appelle un amincissement du mur, qui va un petit peu, comme tout, on perd des cheveux, on perd des cellules au niveau de la peau également. Ce mur va s'amincir, et puis le derme, ce coussinet, cet amortisseur, va perdre des cellules également, qui sont ces petites usines qui fabriquent ce qu'on appelle le tissu élastique, c'est-à-dire le collagène. Hein, on parle beaucoup du collagène qu'on achète dans le commerce pour faire des injections. Et ce collagène, il existe naturellement dans notre peau, et c'est essentiel, bien entendu, pour permettre l'élasticité de la peau. Et que, donc, avec le temps, il peut y avoir des souffrances du collagène. Par exemple, il peut y avoir également des souffrances du collagène et du tissu élastique au cours de la croissance. On voit ce qu'on appelle des vergetures. C'est-à-dire que c'est le collagène n'a pas tenu, ça a craqué, et je ne peux plus revenir à l'état antérieur. Pourquoi ? Parce que la peau s'est craquelée. Et puis alors, il y a l'hypoderme. L'hypoderme, je dirais que c'est quand même un tissu qui est au-dessous des deux autres couches. Alors, il a des affections très particulières, mais c'est souvent moins visible, et c'est souvent vraiment beaucoup plus confiné à de la spécialité de dermatologie. On voit des inflammations de l'hypoderme, on voit des infections plus spécifiques de cet hypoderme, mais ça reste quand même beaucoup moins fréquent.
Alors, vous expliquez également dans votre livre que la peau est notre deuxième cerveau. Vous dites, la peau pense, réfléchit, ressent, suinte, se chagrine, rougit, devient écarlate et parfois chauffe, s'enflamme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Bien oui, c'est effectivement, alors c'est un peu le combat entre le tube digestif et la peau, mais c'est vrai que vous savez, le deuxième cerveau, c'est ce fameux livre qui a fait découvrir aux gens l'importance, et c'est vrai effectivement que l'importance d'ailleurs des bactéries qui se trouvent à l'intérieur de ce tube digestif, d'ailleurs pour lutter contre des infections ou contre des traitements, d'autres traitements. Mais la peau, bien sûr, c'est un organe qui est connecté. Je dis que c'est un organe qui est connecté, je l'ai expliqué, c'est un organe qui se renouvelle, et c'est un organe directement connecté à notre cerveau. Et il y a des connexions que vous pouvez contrôler, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas contrôler. Quand on dit que la peau va rougir, cette sensation de rougissement de votre peau, elle est incontrôlable. C'est parce que j'ai une émotion que je vais rougir. Lorsque la peau est un organe bien plus complexe qu'on peut le penser, la peau est un organe fait de micro-organelles eux-mêmes, et à l'intérieur de la peau, par exemple, il y a des petites cellules qui sécrètent soit du sébum, c'est-à-dire c'est une espèce de liquide assez gras, et puis soit de l'eau, finalement, de l'eau avec un peu de sel et un peu de poivre, je dirais, et c'est la sueur. Eh bien, par exemple, lorsque je suis ému, je vais avoir, par exemple, de la sueur qui va survenir au niveau de mes paumes de main, c'est ce qu'on appelle avoir les mains moites. Eh bien, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler, c'est quelque chose qui parle contre moi. C'est pour ça que je dis que la peau, c'est le meilleur ami de l'homme, mais c'est aussi, quelquefois, un organe qui nous trahi.
Celui qui nous trahit, tout à fait.
Bah oui, on n'est jamais mieux trahi que par ses amis.
D'ailleurs, professeur Nicolas Dupin, vous ouvrez votre ouvrage sur les idées reçues, les fausses croyances. Alors, je vous propose un vrai ou faux. D'abord, est-ce que toutes les maladies de peau sont contagieuses ?
Bien entendu, si vous me posez cette question, c'est que la réponse est non. Bien entendu, la réponse est non. Mais la peau, les gens pensent que parce que c'est sur la peau, lorsque je vais serrer la main ou lorsque je vais toucher les lésions, je vais les attraper. Maintenant, seules les maladies infectieuses sont transmissibles et contagieuses. Bien entendu, la plupart des maladies dermatologiques ne sont pas des maladies transmissibles. Et donc, on peut toucher, palper, voir, regarder, sans risquer d'attraper ces maladies. Mais vous savez à quel point ces maladies sont stigmatisantes. Je pense à certains patients qui ne peuvent plus, par exemple, aller dans leur salle de sport, de certains patients qui ne vont plus à la piscine, tout simplement parce que, d'abord, ils sont gênés par les taches qui sont sur leur peau, mais aussi on leur fait comprendre que peut-être que ça serait mieux d'aller ailleurs.
Parce qu'ils ont potentiellement l'air sales, alors que vous expliquez bien que les maladies de peau n'ont rien à voir avec l'hygiène.
Bien entendu, effectivement, ce serait vraiment... il y a certaines maladies de peau, effectivement, qui peuvent avoir lieu, qui peuvent s'aggraver avec des défauts d'hygiène, bien entendu. Mais dans la très grande majorité des cas, ça n'a rien à voir, bien entendu, avec l'hygiène.
Alors, parmi les fausses croyances, on peut aussi se demander si les maladies de peau comme l'acné sont héréditaires.
Alors, dire qu'une maladie est héréditaire c'est difficile. Dire qu'elle n'est pas héréditaire, c'est encore plus difficile. En fait, on a souvent l'impression quand même qu'il y a une ambiance d'acné dans certaines familles. Donc, on peut pas dire que c'est une maladie qui n'est pas héréditaire. En ce sens, il n'y a pas encore de gène bien identifié pour expliquer que certaines familles se voit être atteinte d'acné à différentes générations. Donc je ne dirais non, il n'y a pas d'hérédité de l'acné. Je dirais qu'il y a quand même une ambiance, c'est probablement une maladie multifactorielle, peut-être polygénique, avec peut-être des gènes de prédisposition, certains identifiés, d'autres en cours d'identification, mais ce n'est pas une maladie franchement héréditaire.
Alors, professeur Nicolas Dupin, à partir de quel moment il faut consulter un dermatologue? Qu'est-ce qui détermine en fait la sévérité d'une maladie de peau?
Alors il y a deux choses. Soit on fait un examen, je dirais un peu systématique, et ça je conseille quand même, quel que soit le type de peau, d'aller quand même consulter une fois dans sa vie un dermatologue, et voire de le faire de façon récurrente si on a une peau plus à risque, ça me paraît le bon sens. Après, effectivement, lorsqu'il y a des lésions qui apparaissent, c'est tellement vaste. Vous savez, on a une spécialité qui comporte pratiquement 2000 maladies identifiées, là où par exemple la neurologie n'identifie que 300-350 maladies. Donc c'est une des spécialités les plus difficiles, car elle reste, si vous voulez, une spécialité d'analyse des signes sur la peau. Et ça, seul le dermatologue peut normalement, avec son savoir, lire ce que ces signes veulent signifier sur votre peau. Donc je dirais que lorsqu'on a une lésion, lorsqu'on a une petite plaie qui ne guérit pas, eh bien il faut aller consulter son dermatologue.
Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé, nombreux à vouloir vous poser des questions.
RFI.
Et on va retrouver Michel qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo, Brazzaville. Bonjour Michel.
Bonjour docteur.
Bonjour Michel.
On vous écoute.
Voilà, j'ai 31 ans et durant toute mon adolescence, j'ai eu des boutons sur le visage. En 2016, j'accouche. Pendant ma gestation, je n'avais pas de boutons, rien. Mon visage était bien lisse, ma peau était très belle. Mais après l'accouchement, 2 mois, mon retour de couche, les boutons ont réapparu et de façon grave, quoi. Donc c'est dérangeant, c'est trop gros et j'ai mon visage qui brille constamment. La peau, elle est grasse. J'ai l'habitude de faire mes propres masques à la maison, donc du bicarbonate, un peu de miel, de citron ou l'aloe vera avec du miel. Ça s'estompe tout simplement, mais après, ça réapparaît. Alors, je voudrais savoir pourquoi, pendant ma période de grossesse, il y a eu cette disparition et après l'accouchement, ça a repris. Et je m'inquiète aussi pour ma fille, je me dis, est-ce qu'elle aussi elle aura le même problème? Et je voudrais aussi savoir une dernière question. Est-ce que le fait de manger trop gras, trop sucré, peut tuer la prolifération de l'acné? Si c'est réellement le cas, quel régime adopter pour cela? Parce que je suis mal à l'aise d'avoir le visage, quelquefois c'est le torse. Enfin, mon visage n'est pas lisse. Je ne peux pas avoir une peau belle, lisse. Je ne sais plus quoi faire.
Merci voilà. Michel, la ligne commence à être un petit peu mauvaise, mais on a entendu vos questions. Professeur Nicolas Dupin, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux différentes questions de Michel? D'abord, comment expliquer cette période de répit de l'acné pendant sa grossesse? Et est-ce que son alimentation peut avoir un impact sur cette acné?
Donc il y a beaucoup de questions posées par cette auditrice. D'abord, il faut comprendre que probablement Michel souffre d'acné et que l'acné à 30 ans, on se dit pourquoi je suis pas débarrassé de cette maladie d'adolescent? Est-ce que je suis une éternelle adolescente? Et je trouve que actuellement c'était un nouveau sujet. C'est vrai que on voit de plus en plus d'acné, je dirais de la femme mûre, c'est-à-dire de la femme entre 30 et 40 ans, et qui a probablement des mécanismes hormonaux. Alors il faut bien comprendre que l'acné c'est une maladie multifactorielle, mais à la base, il y a une modification hormonale qui entraîne une augmentation des récepteurs aux androgènes à la surface des cellules qui sécrètent ce sébum, qui s'appelle les sébocytes. En fait, et donc des petites modifications hormonales, comme ils peuvent survenir au cours de la grossesse, où il y a un certain une modification, bien entendu, de la planification hormonale, et ben il peut y avoir des accalmies pendant la grossesse, comme il peut y avoir d'ailleurs des aggravations de l'acné pendant la grossesse. Donc on pense que tout ça est lié à un déséquilibre ou une modification, en tout cas hormonale, et ce qui peut expliquer ce répit qu'a eu notre auditrice pendant sa grossesse. Alors l'alimentation, C'est toute une question, tout un débat. Il y a des études qui sont faites, qui sont pas forcément de très très bonne qualité sur le plan épidémiologique. C'est difficile de faire des études de ce type-là. Mais qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'acné ? Bah, effectivement, il semblerait que l'alimentation sur glucidique, c'est-à-dire un peu trop sucré, serait des facteurs favorisants, serait un facteur favorisant pour développer de l'acné. Donc c'est vrai que, comme je dis, c'est du bon sens. Bien s'alimenter, c'est bien pour le corps et c'est bien aussi pour votre peau. Enfin, le risque pour sa jeune, son bébé, sa petite fille, de développer une acné est absolument pas déterminé par le fait que cette auditrice, Michel, ait fait de l'acné et continue d'en faire. C'est pas parce qu'elle a de l'acné que sa petite fille est exposée à en développer de la même façon lorsqu'elle sera adolescente et adulte. Ce que je pense quand même les choses importantes à dire, c'est que je pense qu'il faut éviter de couvrir trop la peau avec des crèmes couvrantes qui empêchent, je dirais, de respirer la peau de respirer. La deuxième chose, éviter tout ce qui est irritation. Pourquoi ? Parce que chez les gens à peau pigmentée, le problème de l'acné, c'est la pigmentation post-inflammatoire. Et ça, c'est un vrai, vrai problème. Alors que les lésions ne sont plus actives, persiste en fait une pigmentation qui est liée à la pigmentation post-inflammatoire, dont les mécanismes ne sont pas bien compris, mais qui impose quand même de bien se protéger, même si on a une peau pigmentée, bien se protéger des UV, parce qu'on pense que ce sont les UVA l'irradiation qui serait responsable de ce risque de pigmentation post-inflammatoire.
Alors tout de suite, on va retrouver Joël qui est à Cotonou au Bénin. Bonjour Joël.
Oui, bonjour Madame Raphaël.
On vous écoute.
Professeur Dupin, bonjour.
Bonjour.
Depuis 12 ans, j'ai commencé par développer l'acné au niveau du visage et plus tard jusqu'au torse. Et demain, j'aurai 26 ans. Et donc, ça fait pratiquement 14 ans de ma vie, donc plus de la moitié que j'ai traîné les acnés. Plusieurs fois, j'ai recouru à des traitements phytosanitaires. Ça s'estompe environ pour un mois, mais après, ça reprend. J'ai consulté aussi un dermatologue et ça a été la même chose. J'ai suivi le traitement pour 3 mois, mais bon, il n'y a pas eu de changement pour autant. C'était en 2017.
Joël, oui. Quel type de traitement vous avez utilisé ? Quel produit ?
J'ai utilisé des gels et des comprimés, et des lotions aussi.
Que votre dermato vous a conseillé ?
Oui.
D'accord. Alors, on écoute votre question.
Voilà, donc je voulais savoir qu'est-ce qui pouvait causer le fait que les traitements, plusieurs traitements que j'ai eu déjà faits, n'aboutissent pas, parce que j'ai eu une amélioration au bout d'un mois. Mais ensuite, ça revient, puis de plus belle, quoi.
Professeur Dupin, est-ce que vous avez des conseils à donner à Joël par rapport à ses problèmes de boutons, d'acné ?
Alors, j'aurais peut-être des questions, parce que quand Joël dit « j'ai pris des comprimés », des comprimés, c'est souvent une question qu'on pose aux patients en disant j'ai pris des comprimés, et puis ils nous disent, je leur pose la question, vous savez là, qu'est-ce que c'était ces comprimés ? Ils me disent, vous savez, ces petits comprimés bleus et blancs ou blancs et jaunes. Alors nous, on est dans la tête, on se dit bon, on n'arrivera pas à trouver. Donc ça serait important de savoir exactement quel type de traitement vous avez eu pendant 3 mois, Joël, si c'est possible. Vous vous souvenez de ça ? Est-ce que c'était des antibiotiques, par exemple ?
Oui, il y a du cutanil et de cicycline et de l'érythrite.
D'accord. Donc vous avez reçu des antibiotiques et puis des antibiotiques qui sont les cyclines et puis un gel avec un dérivé de la vitamine A acide et puis un gel d'antibiotiques. Alors en fait maintenant on sait bien, si vous voulez, que pour l'acné, je dirais à chaque stade il y a un traitement. Et plus on va dans des stades sévères, plus on est obligé de prendre ce qu'on appelle des traitements par voie générale. C'est-à-dire soit les antibiotiques, mais les antibiotiques, ils ont un effet suspensif. Ça veut dire qu'effectivement, les gens sont améliorés pendant la période où ils prennent des antibiotiques, mais malheureusement, l'acné peut revenir au décours de l'arrêt. Donc il est important deux choses. Il est important d'apprécier, je dirais, Joël, avec un dermatologue de qualité, la gravité de votre acné. Est-ce que vous êtes à un stade, je dirais, 3-4? Est-ce que vous êtes à un stade supérieur ou un stade inférieur? Et en fonction de ça, on va pouvoir dire, bah, tiens, ce traitement sera peut-être plus adapté pour votre type d'acné. Et il y a des traitements par voie générale pour des acnés sévères, et là encore on peut pas les donner pour des acnés qui sont modérés, et notamment ce qu'on appelle l'isotrétinoïne. Les rétinoïdes, ils ont été trouvés il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, et effectivement, ils n'ont pas forcément une très bonne réputation, parce que ils peuvent donner des effets secondaires, mais on sait que ces traitements-là peuvent avoir des effets définitifs. C'est-à-dire que les gens prennent le traitement, ils arrêtent le traitement qui a amélioré leur acné, et l'acné ne revient pas. Enfin, la troisième chose que je voudrais dire, si vraiment vous avez une acné sévère, alors on le fait plus, je dirais, chez les jeunes femmes, mais si vraiment vous avez une acné sévère, il faut peut-être rechercher des maladies endocriniennes en particulier, qui pourraient provoquer cette acné sévère. Et donc, un petit bilan hormonal peut quelquefois être nécessaire afin d'éliminer une cause endocrinienne à de l'acné. Voilà mes conseils.
Voilà Joël, merci pour vos questions et on vous souhaite une bonne journée. À Cotonou, tout de suite, on va prendre au téléphone Annie, qui nous appelle de Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Annie.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour à tous les studios.
Bonjour.
Alors, moi, je fais une maladie, une maladie de la peau depuis plus de 40 ans. La peau est sèche, très sèche, elle s'écaillait quand j'étais encore adolescente. J'ai rencontré les dermatologues qui ont diagnostiqué un psoriasis. Seulement, ils m'ont dit que c'était une maladie incurable. Donc, je n'ai pas trouvé de satisfaction. Mais avec le temps, La maladie a disparu. Elle est restée beaucoup plus au niveau des pieds et des mains. C'est-à-dire que je suis de teint clair, mais la peau de la main et des pieds, elle est très noire et rugueuse, très sèche aussi. Je ne suis pas la seule qui fait cette maladie dans ma famille, nous sommes trois. Alors j'ai eu un deuxième avis d'une pharmacienne camerounaise vivant en France qui m'a dit que je faisais de l'eczéma. J'aimerais donc savoir quelle différence il y a entre l'eczéma et le psoriasis.
Merci Annie pour votre question, professeur Dupin. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Annie? Quelle est la différence entre le psoriasis et l'eczéma?
Alors c'est une très très bonne question et c'est pas toujours facile de faire la différence, notamment quand on a des formes qui sont localisées comme celle d'Annie avec ces lésions palmo-plantaires et on se casse quelquefois beaucoup la tête, voire on est obligé de faire ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire qu'on prend un petit bout de peau pour analyser. Et en fait, les deux maladies sont bien différentes. Le psoriasis, Annie, c'est une maladie inflammatoire de la peau qui n'a pas de cause extérieure, qui a plus une cause intérieure, parce que quelquefois, en plus, c'est des maladies qui sont facilement provoquées par des petites perturbations émotionnelles, des chocs psycho-affectifs. Mais ça, on reviendra dessus peut-être tout à l'heure. Mais c'est une maladie qui n'a pas de cause externe. C'est une maladie qui est une maladie souvent familiale. On retrouve 10-15% des gens qui souffrent de psoriasis qui ont un ancêtre ou quelqu'un d'assez proche qui a souffert du psoriasis. Cette maladie, elle se caractérise par une augmentation du turnover, c'est-à-dire du changement du mur épidermique, ce qui va entraîner la formation excessive de kératine. Vous voyez, normalement, notre peau, notre épiderme se renouvelle toutes les 3 semaines. Ça, il faut le savoir, vous voyez. Et dans le psoriasis, il y a une accélération du renouvellement de votre peau. Donc tous les 10 jours, il y a une nouvelle peau qui se forme avec la production de ces squames que vous avez très très bien décrites. Ces squames, en fait, c'est de la kératine. Et donc ça donne une peau un petit peu épaissie, une peau qui pèle avec des écailles. Et c'est de la kératine qui vient mourir par excès de peau. L'eczéma, c'est une maladie qui est caractérisée par une allergie. C'est-à-dire qu'il y a, pour l'eczéma, pour avoir un eczéma, il y a forcément un agent externe qui vient provoquer une réaction à la surface de votre peau et entraîner un mécanisme cascade immunologique qui fait que des cellules inflammatoires vont venir reconnaître cet antigène, cet allergène à la surface de votre peau, et ça va entraîner des petites plaques et ça démange. Et donc dans l'eczéma, il y a véritablement, il faut rechercher, vous qui, les mains, les pieds, alors les mains, souvent c'est en contact avec le stylo bille qui est en plastique, c'est en contact avec le changement de vitesse dont le pommeau est en cuir, c'est avec des gants qui sont quelquefois en latex, donc il y a un certain nombre d'allergènes qu'il faut reconnaître et rechercher. Et ça, c'est, je dis toujours, le dermatologue, c'est Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'il a fait le diagnostic, il dit c'est de l'eczéma, maintenant je vais essayer de trouver le coupable. Dans le psoriasis, il faut déjà qu'il fasse le diagnostic de psoriasis. C'est un psoriasis, j'ai pas de coupable, maintenant je vais pouvoir vous donner des traitements. Parce que on peut plus dire, en 2019, où on soit sur la planète, que le psoriasis n'est pas une maladie qu'on peut guérir. On peut, en tout cas, provoquer, donner des traitements qui améliorent, voire blanchissent. Alors, c'est une expression qu'on utilise en dermatologie. C'est-à-dire que ça permet de nettoyer la peau de l'inflammation. Donc, je précise que, franchement, il y a de très bons, maintenant, médicaments. Alors, le problème, souvent, avec ces maladies chroniques, ce sont des maladies pour lesquelles on a des traitements qui, là aussi, n'ont qu'un caractère suspensif.
Merci Annie, j'espère que le professeur Dupin a répondu à votre question.
Oui, il a répondu à ma question.
Merci, on vous souhaite une bonne journée à Yaoundé, et on va aller du côté de Bangui en Centrafrique où on retrouve Sosten. Bonjour Sosten.
Bonjour Raphaël.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, j'aimerais savoir... quels sont les effets secondaires des produits cosmétiques contenant de l'hydroquinone que beaucoup de jeunes, en particulier les jeunes filles de mon pays, utilisent? Donc, j'aimerais savoir ces effets secondaires-là sur la peau.
Professeur Dupin, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sosten sur les produits utilisés pour dépigmenter la peau?
Alors ça, c'est un vaste... une grande question actuellement épidémiologique, de santé publique, sociale. Et c'est vrai qu'effectivement, les dépigmentants, et surtout, je dirais, les produits qui sont à base soit de corticoïdes, soit d'hydroquinone, sont des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Alors, on va juste faire un petit mot sur les corticoïdes, qui sont hypopigmentants aussi, qui permettent de dépigmenter la peau. Et d'ailleurs, c'est un effet dont les gens se plaignent souvent lorsqu'ils ont une peau pigmentée. Quand ils ont une maladie inflammatoire de la peau, on leur met des dermocorticoïdes, la cortisone sur la peau, et la peau va être moins inflammatoire, mais par contre, elle va se dépigmenter. Mais le problème des dermocorticoïdes, c'est les risques infectieux. Lorsque je discute avec certains collègues qui sont donc des collègues éminents en pays africain, ils me disent que l'utilisation à visée dépigmentante des corticoïdes est un des principaux facteurs de risque de faire des infections cutanées graves. Pourquoi ? Parce que la cortisone diminue l'immunité au niveau de la peau et donc favorise les infections extérieures. Pour l'hydroquinone, c'est un peu différent. L'hydroquinone, c'est un produit qui a été découvert de façon totalement fortuite comme dépigmentant, puisqu'il était utilisé dans un processus de fabrication industrielle, et on s'est aperçu que les Afro-Américains qui travaillaient dans les usines et qui étaient directement en contact avec ce produit de l'hydroquinone, ils avaient une dépigmentation de la peau. Et pourquoi ça entraîne une dépigmentation de la peau? Ça entraîne une dépigmentation de la peau parce que ça va toucher à l'essence même de la protection de la peau, c'est-à-dire la production d'une petite protéine qui s'appelle la mélanine. Or, si les sujets à peau pigmentée ont une peau plus noire que les caucasiens, c'est parce que, justement, il y a une augmentation de la production de cette mélanine. Or, en fait, la diminution de la synthèse de cette mélanine va provoquer éventuellement une diminution de la protection de notre propre peau vis-à-vis des agresseurs et en particulier des UV. Donc il y a des effets secondaires. Et puis on sait également que ces molécules peuvent avoir des effets secondaires plus néfastes encore sur la peau, avec même des pigmentations post-inflammatoires, avec ce qu'on appelle un mécanisme d'ochronose. Le pigment de la dégradation du produit vient à l'intérieur de cellules macrophagiques qui sont là pour le digérer, et une fois que ce pigment est à l'intérieur, ça pigmente encore plus la peau. Donc risque à la fois, je dirais, peut-être cancérigène et puis des risques de pigmentation inopiniâtre.
Merci Sosten pour votre question. On vous souhaite une bonne journée à Bangui. Merci à toutes et à tous pour vos appels et vos messages. On va poursuivre notre échange avec vous, professeur Nicolas Dupin, dermatologue à l'hôpital Cochin de Paris et professeur de dermatologie à l'université Paris-Descartes. Une question, un constat. On comprend bien, il faut faire attention à ne pas se mettre n'importe quel produit sur la peau. Est-ce qu'il y a des produits en particulier à bannir, des produits souvent qu'on peut dériver de leur utilisation initiale et qui pourrait être dangereux?
Bah, c'est le cas, ce que je disais tout à l'heure, en parlant des dermocorticoïdes. Les dermocorticoïdes sont de puissants anti-inflammatoires dermatologiques, mais si c'est pour les utiliser pour dépigmenter la peau, alors on a dérivé leur mode d'utilisation pour en faire un dépigmentant. Or, la destinée des dermocorticoïdes, c'est de lutter contre l'inflammation, c'est de traiter l'eczéma, c'est de traiter le psoriasis. Donc ça, effectivement, ce sont des produits qui peuvent être utilisés à mauvais escient.
Tout de suite, on va prendre la direction du Mali.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
On retrouve le professeur Ousmane Faye. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef du service de dermatologie du centre d'appui à la lutte contre la maladie et vice-doyen de la faculté de médecine de Bamako. Professeur Ousmane Faye, quels sont les principaux motifs de consultation dermatologique?
Merci beaucoup madame, je profite de votre antenne pour dire un petit bonjour à mon collègue et ami le professeur Nicolas Dupin, que je vais rencontrer très bientôt à Bamako.
Bonjour.
Alors,
Ousmane.
Bonjour Nicolas. Lorsqu'on regarde en gros les têtes de chapitre qui motivent une consultation dermatologique à Bamako, c'est essentiellement les infections. Les infections cutanées représentent l'essentiel des pathologies cutanées en consultation dans notre service de dermatologie. Mais pris isolement, les infections une à une, on se rend compte qu'en fait, contrairement à ce qu'on a pu penser d'un point de vue purement occidental, c'est l'eczéma qui constitue la première cause des visites dans le service de dermatologie du Centre national de prévention contre la maladie. Après l'eczéma, vient ensuite les mycoses, c'est-à-dire la teigne, la dermatophysie, et ensuite l'acné, dont vous venez de parler tout à l'heure avec M. Dupin, qui constitue le quatrième motif de consultation dans notre service.
Et professeur Ousmane Faye, comment est-ce que vous traitez ces problèmes de peau?
Alors, vous savez, nous avons fait de gros efforts sur la disponibilité des médicaments, en particulier les médicaments essentiels dermatologiques. Au-delà de ça, la plupart du temps, nos patients arrivent à se procurer des antibiotiques qui constituent, disons, les molécules principales qui entrent dans la prise en charge des infections, également les antiparasitaires, les antimycosiques. Nous arrivons à mettre, disons, à avoir ces molécules-là en place. Et surtout, il faut le dire encore, nous avons fait de gros efforts sur la disponibilité de toutes ces molécules-là en médicaments essentiels dermatologiques pour que les populations puissent l'avoir à moindre coût.
Est-ce que vous pouvez nous détailler quelles sont les spécificités des peaux noires que vous traitez?
Alors, vous savez, la spécificité des peaux noires, la peau noire, d'abord, en gros, se distingue de la peau, on va dire, blanche, entre guillemets, caucasienne, de par sa pigmentation, sa richesse en pigments. Au-delà de cette richesse en pigments qui fait l'essentiel, également des particularités génétiques qui font que la peau noire est susceptible de faire certaines infections, comme par exemple les chloïdes, qui sont beaucoup plus fréquentes sur la peau noire, et également d'autres infections comme la dermatite papulosa nigra, qui sont en fait une espèce un peu de vieillissement, c'est l'équivalent de kératosébolique sur peau noire, et sont également des pathologies fréquentes. Au-delà de cette richesse en pigmentation, je pense qu'en gros, il n'y a pas véritablement de grande différence. Certes, il y a eu des études ici et là pour dire que la peau noire serait beaucoup plus résistante, serait beaucoup plus sensible, la couche qu'on est beaucoup plus épaisse. Mais en réalité, lorsqu'on regarde de très près, en essayant de standardiser, disons, les populations suivant leur niveau de vie, suivant leurs occupations, on se rend compte que la grande différence du point de vue phénotypique entre la peau blanche et la peau noire, disons ethnique entre guillemets, c'est véritablement la richesse en pigments mélaniques et la qualité du pigment mélanique.
Professeur Ousmane Faye, on en parlait, la pratique de la dépigmentation est un vrai problème de santé publique. Vous, quel type de traitement vous conseillez quand un patient veut arrêter la dépigmentation?
Merci madame, une très bonne question. Vous savez, nous avons effectué des études à Bamako depuis les années 90, il y a plus de 20 ans maintenant, avec notre ami Dr Antoine Maillé, sur la prévalence de cette affection. Au Mali, on s'est rendu compte qu'il y a environ une femme sur quatre qui se dépigmente. Et ces femmes-là se dépigmentent pas seulement pour avoir une peau blanche, mais en fait, l'effet réellement désiré, c'est d'avoir une peau belle et éclatante. Pas forcément une peau blanche à l'image d'une caucasienne ou véritablement paraît blanche. Certes, c'est un effet qu'ils ont avec une dépigmentation qui n'est pas, disons, mal vécue. Mais la véritable motivation de ces femmes-là, c'est d'avoir une peau blanche et éclatante. Mais malheureusement, ceci ne se passe pas toujours bien au cours de la dépigmentation. Il peut y avoir d'abord des problèmes de pigmentation. Au lieu d'avoir un effet dépigmentant, avoir une peau belle, il va avoir des conséquences graves comme le trouble de la pigmentation. Quand il vient de signaler M. Dupin, c'est-à-dire c'est l'ochronose exogène. En dehors de ça, ils vont fragiliser leur peau. La moindre écorchure, un temps soit peu, va entraîner une plaie qui, mal soignée, peut aboutir à des dermo-hypothèses nécrosantes, qui sont encore graves, qui peuvent être mortelles. Au-delà de ça, nous avons mené des études pour savoir quel était le risque si ces femmes développaient des infections. Alors, on s'est rendu compte, évidemment, que ces femmes, ils ont un risque multiplié par 10, voire 15, 20, de faire des infections cutanées, de faire des infections mycosiques, des champignons, etc. etc. Bref, pour vous dire, et ces femmes-là, souvent quand ils viennent nous voir, lorsque nous demandons d'arrêter la dépigmentation, notre gros souci, c'est véritablement les traitements de substitution. Qu'est-ce que nous pouvons proposer à ces femmes-là? Et bien entendu, malheureusement, encore une fois, le marché africain, malien de façon générale, foisonne de multiples produits qui sont évidemment des dépigmentants et qui sont des dépigmentants cachés, inavoués. Évidemment, notre marge de manœuvre est tout à fait limitée. Et les produits vers lesquels nous pouvons nous tourner sont des produits qui sont fabriqués par d'autres firmes françaises, des émouliers, mais qui coûtent cher et qui ne sont pas à la portée de nos populations. Et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à les acheter. Et même si d'aventure ils arrivent à les acheter, l'effet escompté, c'est-à-dire qu'ils savent toujours, même si c'est des pigments, qu'ils souhaitent avoir et garder le même teint. Et malheureusement, ceci n'est pas possible. Et comme vous le savez, nous n'avons pas d'autres moyens. Nous ne pouvons que leur proposer ces solutions-là. Et évidemment, il va falloir mutualiser les moyens et surtout essayer de démarcher les grandes firmes pour faire de la cosmétologie sur peau noire qui, pour l'instant, n'est pas un gros marché.
Merci beaucoup, professeur Ousmane Faye, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef du service de dermatologie du Centre d'appui à la lutte contre la maladie et vice-doyen de la faculté de médecine de Bamako.
Bamako, 98.5 FM.
Professeur Nicolas Dupin, on vous retrouve pour la dernière partie de notre échange. Est-ce que vous voulez réagir à ce que nous a expliqué le professeur Ousmane Faye?
Mais je trouve passionnant en tout cas d'écouter un homme éminent, professeur, et qui connaît parfaitement, si vous voulez, qui a beaucoup œuvré pour le développement de cette dermatologie sur peau noire et qui a une parfaite connaissance des dermatoses qui sont les plus courantes. Alors on voit j'ai noté que dans les affections les plus courantes, on retrouve quand même des affections liées aux infections cutanées. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est probablement lié à des problèmes inhérents environnementaux qui favorisent bien sûr ces infections cutanées, qu'elles soient superficielles ou qu'elles peuvent être, qui peuvent être graves, et tout ce qui pourra, je dirais, maintenir la peau bien, parfaite, diminuera probablement le risque des infections cutanées et le lien indirect avec l'utilisation de ces crèmes qui sont dérivées et déviées de leurs utilisations principales, je reviens dessus, comme la cortisone ou d'autres, et qui peuvent avoir des effets très néfastes sur votre peau avec des surinfections et même des infections graves qui peuvent menacer le pronostic vital. On voit que l'acné a quand même une part importante puisque c'est le quatrième motif de consultation, et tous les risques inhérents, là aussi, aux problèmes post-inflammatoires sur peau pigmentée, c'est d'aggraver le pigment alors que la maladie a disparu. On garde ce pigment et je crois que c'est un vrai défi hein, actuellement, c'est de trouver des produits et mieux comprendre le mécanisme de cette pigmentation post-inflammatoire. Pensez que 25% des jeunes maliennes ou des femmes maliennes ont recours à la dépigmentation, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est un phénomène de société et il faut, et comme on le voit, ils sont démunis. Nous aussi, nous sommes démunis, mais encore plus là où c'est très utilisé. Et il y a foison de produits absolument non homologués, avec aucune norme, je dirais, de bonne pratique, qui sont utilisés par ces personnes avec des risques pour leur santé. Et je crois que c'est véritablement un effort qui doit être fait au niveau de la communauté internationale, de mobiliser non seulement les dermatologues, mais les politiques, contre cette utilisation déviée de produits pour dépigmenter sa peau.
Professeur Dupin, on en a rapidement parlé, mais c'est vrai que la peau réagit également à notre environnement, aux conditions climatiques et aussi à la pollution. Comment est-ce que ça se traduit ? Et est-ce qu'il y a un réel impact sur la santé de la peau ?
On peut pas. Là aussi, c'est difficile. C'est comme pour l'alimentation. Il y a tellement d'éléments à prendre en ligne de compte que toute affirmation dans un sens comme dans l'autre serait difficile et délicate. Je dis effectivement qu'il y a peut-être certaines dermatoses qui sont plus ou moins favorisées par l'augmentation de la pollution ou la diminution de la couche d'ozone. C'est sûr que si la couche d'ozone est là pour protéger la Terre, si on l'altère, probablement qu'on augmente le risque de rayonnement ultraviolet, et donc il va y avoir une augmentation, peut-être à terme, il va y avoir une augmentation de certains cancers cutanés. La pollution va être responsable d'une allergie cutanée ou de sensibilité de la peau ou d'irritation de la peau, c'est le bon sens, mais c'est pas clairement démontré.
Alors finalement, professeur Dupin, comment connaître sa peau, l'aimer et s'en occuper ? Je cite juste une phrase de votre livre que j'ai beaucoup aimé. Crémez-vous les uns les autres.
Alors, crémez-vous les uns les autres, c'est un peu une boutade, mais c'est vrai. C'est-à-dire que d'abord, ce que je voulais par ce livre, c'est que les gens essayent de mieux comprendre cet organe, que c'est un organe vivant, c'est un organe fragile, c'est un organe qui a comme mission de nous protéger. Et pour le protéger, il faut éviter les irritations. Il faut éviter, lorsqu'on a une peau peu pigmentée, d'aller au soleil. Pourquoi ? Parce que le soleil, c'est néfaste pour votre peau. Les coups de soleil, c'est encore plus néfaste pour la peau. Parce que les coups de soleil, c'est clairement associé à un risque de cancer de la peau. Donc, c'est mieux connaître sa peau, c'est se connaître soi-même. Et je pense que ça, c'est aussi une philosophie. C'est, une fois qu'on a bien analysé sa propre peau, utiliser des produits relativement courants, ne pas aller chercher des produits toujours nouveaux, parce que c'est source d'irritation de la peau.
Professeur Nicolas Dupin, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes dermatologue à l'hôpital Cochin de Paris, professeur de dermatologie à l'université Paris-Descartes et auteur du livre « Mon ami la peau, ce qu'elle révèle et comment apprendre à la protéger à tous les âges de la vie » paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
Merci.
RFI. Comme chaque lundi, c'est l'heure de la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des fruits secs et des graines. Alors, pour démarrer cette chronique, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les fruits secs et les graines ?
Alors, les fruits secs et les graines appartiennent à une famille d'aliments appelée les oléagineux. Alors, les fruits secs, c'est des aliments qui sont quand même très connus. C'est les amandes, la noix de cajou, les noix, les noisettes ou encore la pistache. Mais il ne faut pas confondre les fruits séchés et les fruits secs. Les fruits séchés, eux, sont des fruits classiques qui ont été séchés par un processus de déshydratation, comme par exemple les abricots secs ou les raisins secs. De leur côté, les graines, même si elles sont de plus en plus consommées, sont beaucoup moins bien connues. On retrouve dans cette famille les graines de chanvre, de chia, de lin, de sésame ou encore de soja ou de tournesol. Alors si on considère ses caractéristiques botaniques, l'arachide est classée dans la famille des légumineuses. Mais si on considère sa composition, on la retrouve souvent classée avec les autres fruits secs dans les données nutritionnelles un peu internationales. Donc souvent, on va retrouver l'arachide au milieu de ces fruits secs. Alors en plus de leur consommation sous forme brute, il faut savoir que les fruits secs et les graines sont aussi consommés, transformés, car elles représentent la matière première de nombreuses huiles que l'on va consommée très classiquement, comme l'huile de tournesol par exemple. Alors même si cette famille d'aliments représente une faible part de nos apports alimentaires journaliers, elle est très importante par la composition spécifique de ces différents aliments.
Et quelles sont les caractéristiques nutritionnelles des fruits secs et des graines ?
Alors si on observe d'abord la composition globale, ce sont des aliments qui contiennent majoritairement entre 20 et 60% des lipides, c'est-à-dire des graisses. Alors cette proportion est importante, ce qui fait que ce sont des aliments qui ont un apport calorique important, il ne faut pas oublier ça. La teneur en protéines va varier entre les différents fruits secs et les graines, mais ce qui est important à retenir, c'est que ces protéines sont très intéressantes car elles sont de très très bonne qualité. Et enfin, comme il y a pas mal de protéines et beaucoup de graisses, forcément il y a peu de glucides, c'est-à-dire de sucre. Maintenant, si on regarde sur le plan qualitatif, en plus de contenir des protéines de très bonne qualité, les fruits secs et les graines sont aussi des sources de vitamines et de minéraux, comme par exemple la vitamine E, le calcium ou encore le magnésium. Alors pendant longtemps, on a aussi valorisé le type d'acide gras, c'est-à-dire le type de graisse composant ces aliments. Alors maintenant, on se rend compte que ces profils varient énormément et qu'il faut être un peu plus prudent. En effet, on peut distinguer d'un côté les fruits secs et les graines qui possèdent des acides gras monoinsaturés, comme par exemple les amandes, les arachides et les noisettes, et ceux qui possèdent des acides gras polyinsaturés, comme par exemple la noix ou la graine de tournesol.
Et quels sont les bénéfices pour la santé de la consommation de fruits secs et de graines ?
Alors, il y a de très nombreux travaux de recherche menés depuis quelques années, qui s'intensifient d'ailleurs, qui montrent que la consommation de fruits secs et de graines pourrait jouer un rôle positif sur notre santé en prévenant la survenue de plusieurs maladies. On a par exemple des études qui ont démontré que l'augmentation de la consommation de fruits secs et de graines pourrait jouer un rôle dans la prévention et le contrôle du diabète de type 2, mais aussi du risque de maladies cardiovasculaires. On a aussi un grand nombre d'études aujourd'hui qui ont démontré que la consommation de fruits secs et de graines renforçait l'effet de satiété. Alors ce qu'on appelle la satiété, c'est le fait de ne plus avoir faim. Et ceci est très important, car ces études ont démontré que cet effet de satiété entraînait un meilleur contrôle du poids des personnes.
Et alors, en fonction de toutes ces caractéristiques, quelles sont vos recommandations ?
Alors, cette année, de nombreux rapports ont été publiés qui mentionnent tous qu'il est intéressant d'augmenter d'un côté la consommation de légumineuses, mais aussi de fruits secs et de graines afin de compenser notamment la baisse de consommation de viande. Mais donc, c'est donc ma première recommandation, j'allais dire, c'est de dire oui, il faut en consommer plus. Mais par contre, il faut faire attention. Avant d'augmenter cette consommation de fruits secs et de graines, il faut bien se rappeler que la consommation globale doit rester modérée car ce sont des aliments gras et caloriques. Il faut aussi souvent changer la place qu'ils vont avoir dans nos journées alimentaires, car souvent, quand on parle de pistache, quand on parle d'amandes, de choses comme ça, c'est souvent des aliments qui sont utilisés en collation et en plus des repas classiques. Donc il est très important de les introduire dans la ration journalière et que leur entrée vienne remplacer d'autres aliments, mais ne représente pas une consommation supplémentaire, surtout car on sait que ce sont des aliments gras.
Merci Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Sétou Samaké, Ophélie Lassène et aujourd'hui Nicolas Benita à la réalisation. Demain, nous parlerons des vaccins, de la vaccination à l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination. On vous donne rendez-vous à 9h10 en temps universel, 11h10 à Paris. Et si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro de l'émission 33 1 84 22 75 75 et notre page Facebook est également ouverte quand vous voulez. À demain et bonne journée sur RFI.
De nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.